Au chapitre service, c'est ses 2 ans d'existence avec les étudiants de l'université de Kinshasa. Ça sera au vendredi 30 septembre 2011 de 9h à 11h, heure de Kinshasa, en direct de la colline inspirée. Un rendez-vous spécial à ne pas manquer dans la salle Louis Gilles. Vos réactions et suggestions sont les bienvenues au 081 890 6394. Écrivez-nous aussi par SMS au 081 070 2050. Au chapitre service, à votre service.
Oui, Patricia Biuma, vous êtes à Lumbashi, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute.
Ma question est celle-ci, je ne sais pas totalement si c'est une question. Je voulais savoir, est-ce qu'un parent peut aussi infliger une torture à son enfant? Dans le cas où, pour une bêtise quelconque faite par l'enfant, refuse de payer soit les frais de scolarité, soit le minervail, je voulais savoir si ces genres de torture peuvent être...
Merci Patricia. C'est bien mal.
Je crois, j'ai tendance à dire non parce que, comme vous savez, le droit pénal est d'interprétation très stricte. Il ne faut pas qu'on donne une interprétation trop large à la loi, de sorte à pouvoir voir dans toutes les actions maintenant de la torture. Mmh. En réalité, quand vous lisez même l'esprit, quand vous voyez l'esprit dans lequel cette loi a été prise, elle visait essentiellement les fonctionnaires ou les officiers publics ou toutes les personnes chargées d'abord d'un service public, n'est-ce pas ? Qui ont donc un certain pouvoir sur les citoyens, dont ils abusent. Hein, ils ont le pouvoir d'arrêter, ils ont le pouvoir d'interpeller, mais à l'occasion, eh bien, ils en profitent pour infliger des tortures aux gens. C'est ça qui a été initialement combattu par tous les défenseurs des droits humains qui voulaient que ces pratiques au sein des institutions étatiques, publiques et autres puissent cesser. Bon, évidemment, le législateur, en définissant à l'article 48 bis dont nous avons parlé tout à l'heure, bon, est allé jusqu'à parler de toute personne, hein, de toute personne qui agit, qui commet des actes de torture, mais en stigmatisant qu'il s'agit vraiment d'une souffrance particulière aiguë, hein, qui est infligée à la personne. Alors, un papa qui est fâché, qui pour une raison ou une autre voudrait corriger son enfant, va jusqu'à lui dire, bon, écoute, je ne vais pas payer ton minerval, tu n'iras pas à l'école. Bon, est-ce qu'il s'agit d'un acte de torture
ou une punition?
Ou d'une punition, parce qu'il y a aussi un droit de correction paternelle, etc. Bon, est-ce que le fait d'être privé d'école, l'enfant en souffre d'une façon particulière moralement? Donc vous voyez que, évidemment, ce sont les cours des tribunaux maintenant, les juges, qui, petit à petit, avec la manière dont ils vont appliquer cette loi, vont nous donner le contour exact de cette législation. Pour l'instant, c'est trop tôt d'en définir le contour exact. On verra comment les juges, les cours de tribunaux, dans leurs décisions, vont interpréter ou mieux préciser la volonté du législateur. Mais pour l'instant, je ne pense pas que l'on puisse appliquer ça à un papa qui, même si c'est de manière quelque peu abusive, hein, il peut tomber sous les coups d'autres infractions, coups et blessures et consorts, mais torture apparemment non.
Les questions de préoccupation, composez les 081-890-63-94.
Votre connexion internet est trop lente? Radio-Okapi.net vous propose un service gratuit. Les alertes mail. Toute l'actualité de la RDC, le sport, la politique, l'économie, la culture et les offres d'emploi. Faites votre choix, vous recevrez chaque soir des infos dans votre boîte mail. Les alertes mail, c'est gratuit. Radio-Okapi.net, à votre service.
Que dit la loi congolaise à propos de la torture morale? Justine Mbelou nous appelle de Lubumbashi, bonjour. Justine Mbelou, bonjour.
Bonjour, je vous écoute.
Oui, alors quelle est votre question?
Oui, ma question est celle de savoir si la grève de la faim peut être considérée comme une torture pratiquée par une personne sur elle-même. Et dans ce cas-là, que prévoit la loi?
Merci Justine Mbelou. Alain Chikwangia et nous appelle de Colombie. Bonjour Alain.
Bonjour David Kachamari, bonjour à tous les auditeurs de la radio Tapi. J'aimerais juste poser un peu une question à deux volets à notre invité. La première question, j'aimerais un peu savoir que l'invité nous donne juste la différence entre la torture morale ainsi que la contrainte morale. Et deuxièmement, le deuxième volet de ma question, j'aimerais un peu savoir quand il parle de la torture morale. Rentrer le minimum matériel, parce que lorsque nous parlons de la sanction, il y a normalement trois, il y a plutôt deux éléments. Donc, l'élément légal, c'est une sanction, il y a l'élément matériel et l'élément intentionnel. Mais quand on parle de la torture morale, comme c'est un peu quelque chose qui est un peu moral, je ne sais pas maintenant comment on peut donner, on peut prouver cet élément matériel, parce que l'élément matériel, c'est la preuve. Comment on apporte cette preuve là-bas? Merci.
Merci Alain. Dylan Malheur.
Oui, je reviens à la question de Justine hein, Bellou, de Lubumbashi, qui demande si une personne qui fait une grève de la faim commet un acte de torture à l'égard d'elle-même.
Oui.
C'est un peu comme le suicide. Hein. Mm-hmm. Non, non, là, ça ne tombe pas dans la définition de la loi telle que l'article 48, hein, le nouvel article 48 bis du Code pénal, le livre 2 le dit. Lorsque vous vous privez volontairement, n'est-ce pas, d'alimentation, eh bien, vous ne pouvez pas être poursuivi pour acte de torture envers votre personne. Parce que tout simplement, la loi définit la torture comme des actes commis par une personne vis-à-vis d'une autre. Donc, cet acte-là ne tombe pas sous le coup de la définition de la loi telle qu'elle se présente actuellement. Peut-être qu'avec le temps, on finira par... c'est comme on ne peut pas condamner quelqu'un pour cette, du fait de s'être suicidé, on ne peut pas le condamner même à titre posthume pour meurtre.
Donc, mais celui qui observe une grève de la faim et qui on se rend compte que cette personne a risqué de mourir très bientôt, est-ce que la justice peut se saisir de ces cas?
Non, bien au contraire, la justice demande à ceux qui assistent à cet acte de dépérissement volontaire, eh bien, de l'intervenir, hein, pour, il faut l'assister, c'est une personne qui est justement en danger. Mm-hmm. Et la justice se tourne plutôt vers l'entourage qui est là, qui doit avertir, n'est-ce pas, éventuellement les médecins et consorts pour que cette personne soit prise en charge et ne puisse pas mourir. C'est peut-être un problème psychologique qui fait qu'elle est dans cet état-là et donc elle a besoin d'aide. Hein.
Mm-hmm.
Donc, mais la personne elle-même n'encourt aucune sanction parce que la loi ne sanctionne pas ces actes-là. Alors, Alain, je crois, Chibongwa de Kolwezi, lui, apparemment, c'est un juriste.
Mm-hmm.
Eh bien, il trouve que, classiquement, dans les éléments constitutifs d'une infraction, il y a un élément qu'on appelle l'élément moral. Alors, mais l'élément, et puis il dit, mais comment est-ce que la torture morale peut comporter un élément moral dans la mesure où elle-même, déjà, dans sa définition, comporte le concept moral?
Ouais, il parle d'un élément matériel.
Matériel, oui, oui. Et puis il dit quelle peut être la preuve.
Oui.
Alors moi, je lui dis tout simplement que d'abord, la loi prévoit un élément intentionnel. Hein, celui-là qui est généralement appelé moral. Mm. Il faut que ce soit des souffrances qui sont causées de manière volontaire, de manière intentionnelle. C'est ce qu'il dit l'article 48 bis que j'ai lu tout à l'heure, à une autre personne. Bon, maintenant, le problème de Alain, c'est que au niveau de la forme morale de la torture, parce qu'elle peut être physique ou morale, eh bien, comment est-ce qu'on peut démontrer que la personne a subi la souffrance aiguë au niveau moral? Eh bien, c'est par rapport à la victime, justement.
Mm-hmm.
C'est par rapport à la victime, parce que si l'on lit la disposition légale qui suit, on constate que ces souffrances morales, donc l'article 48-R, dit que ces souffrances morales peuvent causer même des traumatismes psychiques et psychologiques. Et donc, la preuve viendra justement des spécialistes de psychologie, psychiatrie et autres, qui vont venir faire le bilan, n'est-ce pas, de ce que, si l'on veut une preuve, hein, le bilan de ce que la torture morale a causé sur la victime. Très facilement, un psychologue peut vous dire que cette personne a été traumatisée du fait qu'elle a été soumise à telle ou telle, torture.
Voilà.
Alors maintenant, je voulais savoir quelle peut être la nuance entre la torture morale et la contrainte morale, n'est-ce pas? Contrainte morale, par exemple, qui peut amener par un employé ou une employée à avoir des rapports avec son patron, n'est-ce pas, qui lui fait comprendre que si elle ne cède pas,
elle risque de perdre son emploi.
Par exemple, voyez, ça c'est la contrainte morale. Donc on ne la prend pas de force physiquement pour l'amener à accomplir l'acte, mais on la force par une certaine pression morale, n'est-ce pas, à accomplir cet acte. Voilà pourquoi un tel acte est récupéré dans le cadre, par exemple, d'un viol. n'est-ce pas? Donc on considère qu'à ce moment-là, la contrainte morale a vicié le consentement de la personne. Oui. Alors ici, la torture morale, elle, c'est carrément une agression contre l'intégrité psychique et morale de la personne.
Josué Kanani, vous êtes à Bounia, bonjour. Josué, bonjour.
Oui, bonjour.
Veuillez réduire le volume de votre radio à côté. Hein. Vous allez suivre à partir de votre téléphone, Josué. Allez-y, posez un...
Oui, bonjour. Bonjour, je vous donne exactement bonjour à tous les chaînes de Radio Capital.
Oui, quelle est votre question, Josué?
Je t'ai demandé si dans l'église, hein, parce que c'est et demander les fidèles, par exemple, les fidèles ont commis une sorte de péché, et réellement, c'est visible, et les pasteurs se mettent à les réprimander, si on peut dire que ce sont des tortures morales.
Merci, Josué. Marie Loutala, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute.
Oui, ma première préoccupation est en partie répondue par l'invité quant à la preuve. Parce que j'ai une soeur qui veut porter plainte qui a caractère d'une torture morale.
Oui, qu'est-ce qui s'est passé exactement?
Ce qui s'est passé, c'est que son mari appelle sa rivale tout le temps en sa présence pour lui prouver que lui, il est l'homme fort.
Oui.
Alors, cet état de choses ne l'arrange pas trop. Elle a commencé même à faire des crises à répétition. Elle a même été hospitalisée. Maintenant, on s'était dit, bon, on va porter plainte. Maintenant, on était en train de réfléchir sur la preuve. On lui nous poser la question, quelle est la preuve que vous avez? Qu'est-ce qu'on va dire? Donc, c'était ça. On pourra porter plainte. Alors, si on porte plainte, peut-être formuler en quels termes?
Voilà, merci Marie.
Oui, en tout cas, nous remercions beaucoup Marie pour le cas pratique qu'elle nous donne. Je pense que dans ce cas-là, effectivement, il faut aller voir... un psychologue ou un médecin spécialisé en psychiatrie qui peut faire un bilan de santé de votre sœur et constater qu'elle a subi un certain nombre de traumatismes dont il peut déterminer l'agent causal après que vous lui ayez relaté ce qui s'est passé au niveau de son foyer. Et je pense qu'avec ça, ce dossier-là, ce certificat médical, vous pouvez ensuite aller au parquet maintenant démontrer que ça a été fait, ces actes-là sont posés de manière volontaire, intentionnelle par son mari. Ce n'est pas fortuitement qu'il est en train d'appeler et que votre sœur l'espionne, mais c'est fait vraiment devant elle, dans le but de lui causer des souffrances aiguës, sachant qu'une femme mariée supporterait très mal que son mari, comme ça, appelle des concubines devant elle. Eh bien, je pense que à ce moment-là, le parquet va voir avec la nouvelle loi, dans quelle mesure ces faits peuvent être réprimés.
Une autre préoccupation, Marie? Elle est plus en ligne. Merci d'avoir appelé Marie. Mouline dit, avant de répondre à la question de Josué, il y a un autre auditeur en ligne. Mouline dit de Bukavu, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste, et bonjour à l'invité.
On vous écoute, Moulinzi.
Ma préoccupation est la suivante. Bon, il y a des intimidations qui aboutissent, qu'on utilise dans le cadre des enquêtes, et qui aboutissent à de bons résultats. Bon, je veux savoir quelles sont les intimidations, quels débats d'intimidation peuvent être assimilés, qu'on peut considérer comme une torture morale. Si les gens peuvent nous éclairer là-dessus, parce qu'on a déjà une confusion entre une intimidation et une torture. Voilà ma préoccupation.
Merci Moulinzi. Il est malheureux.
Merci beaucoup. Je reviendrai à Moulinzi plus tard, qui paraît être un enquêteur, lui.
Ouais.
Alors, Josué Kanani, je crois, de Bounia, parle des pasteurs qui intimident.
Qui réprimandent les
gens. Qui empêchent. En leur faisant comprendre qu'à cause de tel ou tel autre péché, ils vont subir tel ou tel autre mal.
Ouais.
Et donc, ils demandent si ce n'est pas là des souffrances physiques aiguës. Donc, des tortures morales.
Souffrances morales, oui.
Que l'on inflige, n'est-ce pas, aux fidèles. Je vais d'abord dire ici que la victime doit se trouver dans une circonstance telle qu'elle n'a pas le choix. Elle ne peut pas se soustraire, n'est-ce pas, à cette violence-là, alors que l'Église, on y va volontairement. Et que donc, si le pasteur a un langage qui vous fait souffrir, vous avez tous les loisirs, n'est-ce pas, si vous ne trouvez pas votre compte, de ne plus y aller. vous n'êtes pas dans un univers de contraintes telles que vous ne pouvez pas vous soustraire aux propos que vous estimez peut-être violents ou blessants du pasteur. Deuxièmement, n'est-ce pas, la profession, l'exercice du culte est réglementé en République démocratique du Congo. Ce sont des activités qui sont, n'est-ce pas, ordonnées. Oui. Dans le cadre de la théologie de l'Église telle que cette Église a été agréée, eh bien, le pasteur professe telle ou telle autre foi et brandit telle ou telle autre sanction, n'est-ce pas, morale par rapport à tel comportement qualifié de péché. Eh bien, on ne peut pas dire qu'il est en train de torturer ses fidèles, parce que si vous n'êtes pas d'accord, eh bien, vous changez tout simplement d'église, vous dites ce lieu, vous allez ailleurs.
Il ne s'agit pas d'une torture.
Non. Le conseil à donner à Josué, donc, c'est d'équiper cette église si c'est lui-même qui subit ces tortures. Alors, en ce qui concerne Moulinzi, de Bukavu, qui dit, lui, déjà, ça me surprend un peu son affirmation, qu'il y a des intimidations quand même, hein,
qui a voulu
à de bons résultats. Alors que normalement, toute personne qui est sujette à une enquête doit être présumée innocente et traitée comme telle, c'est-à-dire avec dignité, avec respect de son intégrité morale et physique. Et donc, il ne faut pas intimider quelqu'un pour lui extorquer, n'est-ce pas, des aveux, parce qu'à ce moment-là, ces aveux-là deviennent douteux et ne peuvent pas fonder une action en justice, parce que dès qu'il démontre qu'il a cédé par peur, eh bien, ça invalide les aveux qui ont été obtenus dans ces circonstances-là. Okay. Alors, je ne sais pas de quelle intimidation...
Alors, il dit, est-ce que les intimidations peuvent être considérées comme une forme de torture?
Oui, si une intimidation atteint, n'est-ce pas, un degré inacceptable, tel que, par exemple, vous menacez de prendre l'enfant de quelqu'un, ou vous prenez son enfant en otage, en lui disant que si vous ne nous signez pas un tel aveu, eh bien, on va trouer l'œil de votre enfant, par exemple.
Oui.
Vous êtes là en plein dans la torture morale.
Oui.
Ce qui apparaissait comme une simple intimidation avant, eh bien, franchit l'étape de souffrance que vous causez à la personne. Vous savez, personne ne peut vouloir qu'un mal soit causé à son enfant.
À son enfant, oui.
Et à ce moment-là, il réagit, vous lui extorquez des signatures, etc.
Papi Béa, vous êtes en Banaka, bonjour.
Je dis bonjour à l'Alliance.
Ah, on vous écoute, Papi Béa.
Oui, j'ai deux préoccupations. Merci pour la parole. Je salue aussi tous les auditeurs de la radio. Alors, ma première préoccupation, c'est je suis un peu gêné que l'Institut parle de la loi qui n'a été étudiée que récemment. Alors, ma question, c'est est-ce que cette loi a des effets rétroactifs d'abord, et ensuite, bon, que ce soit oui ou bien non, mais je me dis. Nous avons tous suivi une certaine torture morale et deux Congolais ont suivi même des tortures physiques graves, dont Armand Kungulu et un autre, c'est l'activiste des droits de l'homme qui a été trouvé mort dans son véhicule. On sait que ce sont les services de l'État et tous les partis, les services de la présidence de la République qui ont été en fait en
voilà, alors Papi Béa, là, c'est des propos qui vous engagent. Alors, allez tout droit à la question, s'il vous plaît.
Oui, je vais à la question juste pour vous situer. Alors, je me dis, dans ce cas-là, est-ce que, parce que torturé par les photos que nous avons vues de Armand, est-ce qu'on peut porter plainte contre ce service-là? Je me dis,
merci, Papi. Antoine Jean-Claude, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Bonjour, mon père.
Quelle est votre question, Antoine?
Bon, j'ai une préoccupation là. Comme la torture physique est appliquée par certains services de l'État, je ne sais pas si je peux le citer, la mère, la police, peut-être à 90%. Bon, au cas où ils n'arrivaient pas à traiter cela, est-ce qu'il y a d'autres pouvoirs qu'on peut utiliser pour que définitivement cela soit éradiqué ou quoi?
Merci Antoine de Lubumbashi et Gandhi Bokumbi, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour.
Quelle est votre question?
Oui, ma préoccupation est la suivante. Le fait de chasser un enfant mineur de 6 ans de l'école parce que les parents n'ont pas pu couvrir les feux qui exigent l'enseignement, cet acte-là n'est pas une tortue morale.
Merci Gandhi. Voilà, M. Guilherme Aléré, vous avez la parole.
Merci, aujourd'hui, nous abordons une série de questions assez délicates là.
Mm-hmm.
Mais pour Papi Béadembandaka, qui veut savoir si la loi a un effet rétroactif, c'est-à-dire est-ce qu'elle peut couvrir des situations qui ont été commises avant sa promulgation.
Oui.
J'ai dit tout de suite non, parce qu'en lisant la loi, elle ne prévoit pas cela. elle ne prévoit pas qu'elle régit des situations passées. Donc, et les actes qui tombent sous les coups de cette loi, qui ont été commis avant sa promulgation, donc, seront poursuivis sur base de la législation existante en ce moment-là. Si des tortures qui ont été commises en situation d'arrestation de la personne, arrestation arbitrée, eh bien, ça ne sera que des circonstances aggravantes de l'infraction d'arrestation arbitraire. Mais en tant qu'infraction autonome, eh bien, la torture n'est poursuivable en tant que telle que depuis la promulgation de cette loi du 9 juillet donc, 2011. Mmh. Alors, il a aussi dit que nous avons tous subi des tortures morales grave, je ne sais pas à quelle occasion, mais maintenant là.
Demandé par certains services de l'État, c'est Antoine Jean-Claude de Lumbashi, il demande comment mettre fin à cela.
Oui, oui, oui. Donc, mettre fin à cela, c'est la dénonciation. Hein. C'est ce que je crois Radio Capi dans son émission a toujours prôné. Écoutez, si vous êtes. L'information que vous voulez donner, de savoir que tel ou tel comportement est infractionnel, mais c'est à vous, lorsque vous en êtes victime, n'est-ce pas, d'aller vous plaindre, de dénoncer, de porter plainte. Au sein de, n'est-ce pas, des services compétents. Même les services qui ont été cités tout à l'heure par Antoine, eh bien, les personnes qui œuvrent au sein de ces services-là ne sont pas au-dessus de la loi. Vous pouvez, si vous reconnaissez la personne, vous avez son identité, vous pouvez aller au parquet, soit au parquet civil, soit au parquet militaire, s'il s'agit de l'élément de la police nationale, eh bien, cet élément qui pratique la torture va être interpellé. Particulièrement au sein de la police nationale, les justiciables le savent, il suffit d'aller à l'auditorat général, eh bien, les policiers qui a commis des actes de torture est aussitôt interpellé. Et donc, il y a quand même des institutions judiciaires qui fonctionnent dans notre pays.
Voilà, et Gandhi qui dit, le fait de chasser un enfant de l'école, n'est-ce pas là une torture?
Bon, le petit, effectivement, va avoir une certaine frustration, va souffrir moralement, mais c'est une loi aussi qui organise la manière dont on va à l'école, c'est-à-dire il y a des frais minimums qu'il faut payer, qu'on appelle Minerval. Et bon, c'est malheureux quand même qu'on en arrive jusqu'à chasser des enfants. Alors qu'il y a des sanctions alternatives, on ne donne pas les bulletins à la fin de l'année jusqu'à ce que les parents aient payé, etc. etc. Bon, mais tel que défini par la loi, il ne s'agit pas d'un acte de torture. On ne peut pas appeler ça comme ça, en tout cas, bien que c'est à déconseiller.
C'est à déconseiller. Monsieur Guilhem Allaire, juriste indépendant, merci et à la prochaine.
Merci, Jodine Kachama, merci à toute l'équipe technique de Radio Capital.